à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Lucie Sourza, bonjour.
Bonjour.
Ma langue a fourché, comme on dit. Lucie Sourza, merci d'être venue pour ce troisième entretien au sujet d'un colloque, enfin d'une conférence pluridisciplinaire que vous avez organisée récemment sur le prix de la vie. La vie a-t-elle un prix? Et vous nous avez expliqué dans les entretiens précédents qu'il y avait des regards croisés avec des approches scientifiques différentes. Je voudrais aujourd'hui que vous nous expliquiez comment l'approche du juriste que vous nous avez expliqué dans le précédent entretien finalement s'accorde ou se désaccorde ou diverge des points de vue de l'anthropologue, de l'économiste ou du médecin, puisque c'était les personnes qui étaient réunies autour de la table de votre conférence. Alors, le juriste que vous êtes, comment il s'entend avec les autres ou sur quoi diverge-t-il?
Alors, au contraire, je dirais que plutôt nous sommes tous entendus sur ce sujet et nous avons tous pu identifier un point de convergence dans nos interventions respectives. Ce point de convergence est le suivant, c'est celui d'une hiérarchisation de la valeur de la vie en fonction des contextes, en fonction des situations
et en fonction de peut-être la période historique,
bien sûr, de l'histoire, mais aussi en fonction des contextes géopolitiques par exemple, mais aussi en fonction des contextes géographiques, puisque nous avons eu la vision très occidentale, hein, mais aussi nous avons eu aussi la vision de notre anthropologue Madame Katerina Genzi, qui elle a une analyse portée sur l'Inde classique et contemporaine.
Et alors les anthropologues, quel est leur point de vue sur cette question?
Alors, ce qui était très intéressant dans l'intervention de Madame Genzi, donc spécialiste de l'Inde classique et de l'Inde contemporaine, c'est qu'elle nous a éclairé sur la valeur de l'être humain en Inde en fonction de théories. Voilà ce qui est ressorti de son intervention, c'est que la valeur de la vie humaine n'est pas identique en fonction des représentations, mais aussi en fonction des critères. Alors, je m'explique. En fonction des représentations, Madame Genzi s'est basée sur les représentations brahmaniques et hindoues. Et elle nous a expliqué que l'être humain, en Inde, selon ces représentations-là, naît avec des dettes, mais des dettes au sens strictement économique.
Est-ce que c'est lié aux castes ou...
Oui,
pas?
Alors il y a effectivement un lien aussi avec la caste, mais... Le lien avec la caste est plutôt en fonction des critères. C'est le deuxième aspect qu'a traité notre anthropologue à l'occasion de cette conférence. Et en fonction des représentations, donc la personne naît avec des dettes économiques et elle va devoir solder sa dette économique, ses dettes économiques, tout au long de sa vie à l'aide de différentes stratégies. Et l'une d'entre elles, c'est l'usage de l'horoscope. Par exemple, si on voit dans l'horoscope d'une femme que cette dernière engendrera 3 fils, eh bien, cette femme aura plus de valeur, au sens économique du terme, qu'une autre femme qui n'engendrera pas de fils.
Alors, c'est passionnant ce que vous dites, parce que ça sous-entend que quand on arrive au monde, on a déjà, au fond, un bagage. Donc, c'est l'idée chez les hindous qu'on a plusieurs vies. Et donc, on peut avoir accumulé un passif, c'est ça que vous nous dites, dans des vies précédentes. Et la vie actuelle doit solder les dettes.
Exactement, c'est ce qui est ressorti de l'intervention de Madame Genzi. Alors, je rapporte tout ça de manière très modeste, n'étant pas moi-même anthropologue, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un des éléments qui a été soulevé, que nous avons trouvé absolument passionnant. Mais ce n'a pas été le seul élément, puisque cette dernière nous a expliqué qu'il y avait aussi des évaluations différentes de la valeur de la vie en fonction des critères. Et ces critères, ça peut être le sexe de l'individu, les hommes ayant plus de valeur que les femmes en Inde, mais aussi de la caste.
Ça doit plaire aux féministes européennes.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça ne doit pas leur plaire. La caste est aussi en fonction du phénotype. Et à partir de là, se sont développées des stratégies, pardonnez-moi, à la fois matrimoniales, mais aussi médicales, par exemple avec les avortements sélectifs. Et l'apparition de l'échographie a favorisé ce phénomène, avec d'ailleurs des impacts démographiques, avec beaucoup plus d'hommes que de femmes en Inde, et aussi avec des stratégies rituelles.
Ah bon ?
Oui.
Donc, au fond, on peut... Vous me dites que les Indiens, en fonction du sexe identifié lors d'une échographie, peuvent décider de recourir à l'avortement ?
Par exemple, alors, le législateur est intervenu pour arrêter ce phénomène, mais il était, d'après ce qu'a évoqué Madame...
C'était compatible avec la religion ?
Voilà, c'était vraiment dans les pratiques et l'objectif c'était de mettre en exergue le fait que le sexe masculin avait plus de valeur que une personne de sexe féminin.
Bon, il n'y a pas que les hommes blancs qui sont machistes.
Voilà.
Bien. Et ce point de vue donc de l'anthropologue, on voit bien que dans la culture indienne, mais j'imagine que dans d'autres cultures. On a un peu la même chose parce que on a toujours au fond fait un peu de sélection. Il y a cet exemple de l'enfant unique chez les Chinois aussi, mm-hmm. qui est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous aviez une fille, vous aviez le droit en aînée, vous aviez le droit d'avoir un deuxième enfant dans l'espoir d'avoir un garçon. Alors que si votre premier était un garçon, vous n'aviez pas le droit d'en avoir un deuxième parce que les filles, au fond, on n'en avait pas tellement besoin. Donc c'est un peu la même idée, finalement.
Sauf erreur de ma part, je crois que la Chine a modifié sa politique de natalité, justement,
complètement,
à ce propos.
Complètement, parce que c'était une impasse sur la durée, long terme.
Tout à fait.
Mais pendant un moment, à l'époque Mao et suivante, où il fallait limiter la natalité, c'est le choix de l'enfant unique. Mais sauf qu'on pouvait en avoir deux si l'aîné était une fille.
C'est ça. Et là, en Inde, d'ailleurs, il y a une réaction des autorités pour arrêter aussi ce phénomène, avec, par exemple, l'interdiction de révélation du sexe à l'échographie, pour éviter justement la pratique des avortements sélectifs. Tout à fait.
Bien. Finalement, on n'est pas mécontent de vivre dans notre civilisation, même si beaucoup la critiquent. Et le point de vue du médecin là-dedans, puisque autour de la table ronde, il y avait un médecin qui était M. Broman, c'est ça ?
Tout à fait.
Qui a été président de Médecins Sans Frontières,
oui.
Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup vu de choses, voyagé dans des pays divers et variés. Quel était son regard ?
Alors, M. Broman nous a fait partager un regard tout à fait intéressant à partir d'une position d'observateur, d'une position empirique. Et ce dernier a mis en exergue le fait qu'il y avait une appréciation variable de la valeur de la vie en fonction des conjonctures, en fonction des contextes, avec notamment une forte emprise de l'index émotionnel. C'est-à-dire qu'en fonction de notre proximité, plus ou moins marquée avec certaines situations, eh bien, nous nous sentons plus ou moins touchés par des situations, par exemple sur des zones de guerre ou bien sur des zones de catastrophes naturelles. Donc, ce phénomène, eh bien, crée une sorte, là aussi, de hiérarchisation de la valeur de la vie, où nous n'aurons pas forcément, eh bien, la même émotion en fonction d'une guerre se situant à tel endroit du monde et d'une guerre se situant sur une autre partie du monde.
Et donc, est-ce qu'on peut en conclure que la vision que nous, occidentaux, à un moment donné, pouvons avoir de conflits armés? Alors, on pourrait prendre l'exemple, évidemment, du conflit palestinien autour d'Israël, mais on pourrait aussi parler des Ouïghours, on pourrait aussi parler des génocides qu'il y a régulièrement en Afrique et encore en ce moment au Soudan. Donc, effectivement, on a le sentiment là que la valeur qu'on donne, nous, à la vie occidentaux à travers notre écran de télévision n'a rien à voir avec la valeur qui est donnée à la vie sur les théâtres d'opérations eux-mêmes, c'est ça qu'il disait.
Exactement. Et pour éviter cette sorte de phénomène de hiérarchisation, eh bien, ce dernier évoque toute l'importance du droit. Le droit serait justement un outil précieux pour remédier à cela.
Et donc le droit, à quel niveau ? C'est des instances internationales ?
Exactement, plutôt sur l'aspect international. Mais bon, il ne faut pas oublier que les États sont souverains et que c'est toujours difficile aussi d'associer...
Oui, parce que c'est... en plus, nous sommes dans une période où on reproche à l'Occident, assez généralement, y compris à l'intérieur des pays occidentaux, d'avoir une vision hégémonique colonialiste. C'est-à-dire que si nous voulons imposer notre propre perception de ce que devrait être le monde, ou un monde idéal, à des pays qui n'ont pas la même culture, oui, comme vous le disiez avec l'Inde tout à l'heure, on va se faire traiter de colonialisme. Donc c'est extrêmement difficile.
C'est très, très difficile.
Même à travers des organismes comme l'ONU, j'imagine, pour des juristes. Est-ce que l'Europe peut au moins avoir un point de vue homogène là-dessus?
Ça me semble très compliqué.
C'est déjà compliqué en Europe,
oui,
de votre point de vue?
Oui, je pense que c'est un sujet très, très complexe, effectivement.
Ouais. Est-ce que c'est une des branches du droit qui est appelée à se développer?
Peut-être. Je réponds de manière très, très prudente à votre question, mais peut-être qu'on peut espérer, effectivement... un droit un peu novateur.
Un droit humanitaire.
Oui, une sorte de oui, alors même si le droit humanitaire existe déjà,
existe déjà.
Un petit peu par la force des choses. Hein, mais oui, on peut s'imaginer cela, du coin de la nécessité de le développer.
Ce qui supposerait une espèce de gouvernement unique du monde, on en est loin.
Mais ça me semble un peu utopique.
C'est un peu utopique.
Oui, tout à fait.
Bien, Madame Sourza, merci pour ces éclairages sur ce que pourrait être, ce que peut être le prix de la vie, le prix qu'on accorde à la vie en fonction des situations dans lesquelles on se trouve et des angles d'approche que l'on a.
Merci
de nous avoir... Je voudrais dire et faire un peu la promotion de votre centre, l'IRIS.
L'IRSI.
Voilà. Comment peut-on se tenir informé pour le grand public de ce que vous faites? Parce que j'imagine que toutes ces conférences sont ouvertes au grand public.
Tout à fait. C'est l'ADN de l'IRSI, c'est de faire ces cycles de conférences ouvertes au grand public. Alors nous communiquons beaucoup sur...
Comment nos auditeurs peuvent se renseigner sur ce que vous faites?
Tout simplement sur le site de l'université Toulouse Capitole.
Donc on tape Toulouse Capitole...
IRSI. Voilà.
On arrive sur le site de l'université, là on tape IRSI, I-R-S-I.
Tout à fait.
Et là, on tombe sur votre centre de recherche.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Voilà.
Et là, il y a un programme qui se déroule toute l'année.
Alors, pour l'instant, on est plutôt sur une ou deux conférences par an, parce que ça demande beaucoup d'investissement pour organiser tout.
Mais ce sont des
cela.
Conférences de grande qualité.
Exactement.
J'invite nos auditeurs à se renseigner pour ne pas rater la suivante. Est-ce que vous avez déjà le thème de la suivante?
Alors oui, elles porteront sur la question de l'intelligence artificielle et du défi climatique.
D'accord. Bon, encore deux sujets passionnants.
Voilà.
Madame Sourza, merci encore.
Merci à vous.